the sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
h 2 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité locale et internationale en termes de sport. On est ravi de vous retrouver. Sachez que nous sommes à J-101 des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc voilà, la ferveur qui monte à bientôt 100 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, en ce mardi 16 avril 2024, on est déjà ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Évidemment, vous avez peut-être, vous êtes tous un peu attentifs à ce qui va se passer du côté de Barcelone dans quelques minutes. On fera un point évidemment sur cette rencontre très importante de Ligue des Champions. Mais avant ça, évidemment, on débriefera toute l'actualité locale et internationale. Et puis surtout, je vais présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, les rescapés un petit peu. Des derniers absents. Donc Mathéo n'est pas là, il sera là aux prochaines émissions. Cédric non plus, il a annulé. Mais Faustin est bel et bien là, lui qui avait été donc absent aussi la semaine dernière pour cause d'une grosse chute. Bonsoir Faustin, et comment ça va ?
Bonsoir, ça va mieux, bonsoir tout le monde. Bah oui, ça va mieux, heureusement. La semaine dernière, j'avais un peu de mal à parler avec les lèvres gonflées, et les points de suture.
On le voit, hein, pour ceux qui nous écoutent. Nous, en studio, on voit que voilà, il y a encore des restes de cette mauvaise chute en trottinette, c'est ça ?
Exactement, une cicatrice que je risque de garder un petit bout de temps.
Aïe, aïe, aïe. J'espère que voilà, ça t'a pas dérangé pour jouer au basket ?
Bah si, parce que j'avais match le lendemain de la chute, en étant à l'hôpital, ça va être compliqué, mais heureusement pour moi, on a 3 semaines d'affilée sans match, donc
bon, tant mieux, parce que c'est les vacances. Clément est également avec nous. Clément, toujours en forme.
Salut Alex, salut à tous. Oui, toujours en forme, en pleine révision pour l'oral blanc que je passe jeudi, donc voilà,
ça. Attention. Ouais. C'est les choses sérieuses qui commencent.
Ouais,
c'est un oral blanc. Du coup, t'es en première, donc c'est ça, français.
Ouais, oral blanc de français. Donc j'ai 10 textes à réviser.
10 textes. Ah là là.
Petit joueur, j'en avais 14. Moi,
moi, je sais plus combien j'en avais, mais j'en avais pas mal. Et je me souviens que le jour de l'oral, je tombe sur un texte que j'aimais bien. Et sauf qu'en fait, l'examinatrice, on va dire, elle m'a coupé le texte en deux. Et c'était déjà, en gros, c'était le début d'un roman. Mm. C'était l'incipit, comme on dit. Les plus littéraires reconnaîtront le terme.
J'ai la ref.
Et en fait, elle m'a coupé le truc en deux. Et moi qui, enfin, franchement, c'est un entier, j'allais gérer. Du coup, j'ai dû réadapter un peu. Ouais. Parce que comme elle m'annonce, du coup, l'incipit, je fais, ah, bah, trop bien. Et puis au final, elle le coupe en deux, donc bah super. Mais j'ai pu gérer quand même, franchement, sort avec un petit 13 sympathique.
Pas mal.
Et du coup, en première, vous passez quoi ? Parce que maintenant, ça a changé.
Si, c'est toujours la même chose. En première, c'est toujours la même chose. C'est l'oral et puis l'écrit
parce que, du
de
coup,
4 heures.
Moi, qui étais en économique et sociale, j'ai passé, notamment en première, aussi les sciences qu'on avait pas en terminale.
Ah non, maintenant c'est tout en terminale. Par exemple, Faustin va t'expliquer parce que du coup lui il est en terminale, mais parce que je sais pas trop comment ça se passe en terminale. Mais
nous c'est bac de philo, bac de spé et grand oral.
Ok, et ça arrive bientôt en fait.
C'est 18 juin, 19 juin, 20 juin et après un peu plus tard pour le moment.
Moi aussi c'est dans ces eaux-là. C'est avant je crois le bac blanc, le bac.
Le vrai bac. Bon bah voilà, mais oui, on vous souhaite évidemment bonne chance à vous deux, hein, pour vos échéances personnelles. Bon, voilà, on a trêve de bavardage, j'ai envie de dire. On va enchaîner avec le sommaire de l'émission. On va commencer avec les actualités locales. On parlera du SCO qui a fait match nul 0-0 à Grenoble. On parle également du SCO Handball qui est pas en bonne posture pour se maintenir en Pro League. On parle un peu de basket avec toi, Faustin. Les résultats de l'OAB qui s'accrochent, ouais, malgré tout, malgré tout ce qui se passe autour du club. L'UFAB qui va débuter son premier match de play-off donc vendredi.
Ouais, c'est ça.
Et tu nous parleras un peu du contexte de ce match. Et puis Cholet aussi qui a perdu, je crois, ce week-end.
Exactement.
Et puis les Ducs d'Angers, une petite info qui vient de tomber tout de suite, enfin il n'y a pas longtemps, sur les Ducs d'Angers. Niveau international, on va longuement revenir sur donc ce rendez-vous très attendu par tout le monde, ce match Barça-PSG. On donnera les compos qui viennent tout juste de tomber. Et puis voilà, on fera un peu nos pronostics, comme vous en avez l'habitude, sur cette rencontre.
Toujours aussi mauvais.
Toujours aussi mauvais. Je n'ai pas à sous-garder en tête ce qu'on avait dit la semaine dernière.
Que Paris.
Tout le monde avait dit Paris. Ouais. Il n'y avait personne qui avait dit Barça.
J'étais pas là.
Il n'était pas là, Faustin.
Mais je crois qu'un peu avant, t'avais dit Barça.
Oui, il avait dit
Barça. Parce que l'émission d'avant, on a parlé que de cette affiche.
Il se baladait au lycée avec le maillot du Barça fièrement le lendemain. Là, là.
Ça me rappelle justement, pareil, on va parler de lycée, mais un pote à moi, du coup, après la remontada, un supporter marseillais, et barcelonais, c'était ramené donc maillot du Barça qui était trop refait avec un prof d'espagnol. Il était là parce que la prof d'espagnol était pour l'Atlético, lui, et donc il était là, ouais, le Barça élimine, le Barça a gagné, quoi. Bref, que de souvenirs. On parlera également un peu de tennis avec le retour de Rafael Nadal sur les courts de terre battue notamment. On parlera un petit peu de handball puisque les équipes de France connaissent maintenant depuis quelques heures donc leur groupe pour les Jeux Olympiques. Et puis Clément, tu nous feras un point sur les résultats en Champions Cup en rugby.
Ouais.
Et bien écoutez, on peut commencer sans plus tarder avec donc le sport local et le SCO d'Angers qui pouvait faire une très belle opération ce week-end, enfin plutôt ce lundi. C'était le match avait lieu hier soir au Stade des Alpes à Grenoble, puisque Auxerre, Saint-Étienne et Laval avaient tous trois perdu. Saint-Étienne c'était face à Ajaccio, Laval une sévère défaite contre Annecy, et puis Auxerre c'était incliné dans le temps additionnel contre Quevilly-Rouen. L'occasion donc pour le SCO de revenir à la fois à 4 points d'Auxerre, de prendre 3 points d'avance sur Saint-Étienne et d'en prendre 8 sur Laval. Malheureusement donc match nul 0-0 du côté de Grenoble. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de choses à dire sur ce match, hein. Ça a été pas le match le plus passionnant de la saison pour les Angevins. On prend un point qui nous permet donc de repasser devant Saint-Étienne, puisqu'on était à égalité de points. Prochain match, alors on va enchaîner très rapidement avec donc une semaine à 3 matchs à partir de samedi. On commencera par la réception de Troyes, l'Estac qui d'ailleurs joue pour son maintien, et puis on enchaînera mardi du côté de Guingamp, et enfin samedi d'après on ira à Charletti pour jouer le PFC qui est en ballotage assez, je dirais pas favorable, mais en tout cas qui est dans la course pour les playoffs. Donc ce sera 3 matchs très très importants pour le SCO dans la perspective de monter. Les gars, un petit peu décevant quand même ce 0-0 qui, voilà, si ça avait été une victoire, ça aurait été quand même beaucoup mieux.
Bah oui, c'est clair, ça nous aurait permis de prendre une avance sur Saint-Étienne. Et encore plus sur Laval, surtout.
C'est Paris FC maintenant, qui est quatrième.
Ah ouais?
Ouais. Bah, ils sont à égalité de points avec Laval, mais.
Enfin, surtout nos rivaux finalement.
Oui, parce qu'il y en a.
Mais surtout vu la physionomie du match, où il me semble les Angevins, ils font 22 centres, quelque chose comme ça. Ouais. Et il n'y en a aucun qui rentre dedans. C'est vraiment dommage. On a manqué de réalisme beaucoup sur le match, vraiment beaucoup. Et ouais, c'est ça qui a pêché. Mais à noter la très belle prestation de Kalumba.
T'as pu voir le match, toi ?
Ouais, j'ai pu voir le match hier soir, et qui a vraiment apporté beaucoup de choses à l'équipe.
Ok.
Après, je trouve qu'on a quand même.
Excuse-moi, ah oui, il y avait un absent, je crois, justement, à gauche.
À gauche, il y avait. Oui.
Je crois que c'est Ferrat qui était absent.
Ouais, c'est Ferrat, ouais. C'est ça, ouais.
Tu disais Clément.
Bah, il y a quand même Grenoble qui a eu pas mal d'actions. Je trouve. Enfin, je suivais le match parce que je peux pas le regarder. J'avais pas l'abonnement, mais sur l'équipe, et il disait que quand même le SCO a été chanceux de en première mi-temps de ressortir avec le nul. Mais il y a une main qui a pas été sifflée.
Ouais, d'ailleurs, ouais, apparemment. Ouais. Et toi qui as vu le match, il y avait un penalty sur Kalumba, je crois.
Ouais, c'était plus difficile à siffler, mais plus gros c'était la main surtout.
Oui, il aurait dû prendre en rouge. Ouais.
C'est le gardien qui fait une sortie en dehors de sa surface et il fait un sauvetage comme s'il était dans sa surface quoi, avec la main. Où il la laisse traîner derrière lui par terre et il arrête un tir. Donc bon, ça c'était en plus c'était le début du match.
Il y a même pas eu.
Non, il y a rien eu du tout. L'arbitre a laissé jouer. Bon, c'était
limite.
Ouais, voilà. Pour débuter le match,
on reparlera peut-être de l'arbitrage français quand on parlera de la Ligue 1.
Notamment l'OL, non ?
Le quoi ?
Notamment l'OL, non ?
Non, peut-être, je ne sais pas. Bref, mais ouais, ça reste un résultat mitigé.
Ouais.
Ouais, clairement.
Parce que bon, voilà, on n'a pas perdu. On repasse devant Saint-Etienne.
Ouais, on est deuxième, c'est bien.
Ça reste toujours bien, mais il y a un gros calendrier qui arrive, évidemment.
Ouais, et puis il y a quand même des équipes qui vont pousser derrière avec le 9e. Enfin, du 9e jusque du coup au SCO, il y a quand même que 7 points. Donc je pense que ça va pousser. Et puis oui, il y a des équipes qui sont capables de nous passer devant, comme Saint-Etienne, le Paris FC aussi qui est sur une très bonne lancée. Donc à voir.
Eh bien justement, le match dans une dizaine de jours sera très important du côté de Charletti. On verra ça, il reste 6 journées, je crois.
C'est ça.
Voilà, le sprint de finale qui a commencé évidemment dès maintenant. On va parler d'une autre équipe du SCO, c'est le SCO Handball qui a très très mal géré l'un de ses rendez-vous les plus importants de la saison. C'était vendredi soir à domicile contre Caen. Les Angevins se sont inclinés 35-29 dans une rencontre où ils n'ont jamais fait le poids tout au long de la rencontre. Les Canets qui donc ont dominé l'ensemble de la partie face aux SCOistes qui quand même, il faut le dire, avaient pas mal d'absents sur le match. Les Vikings de Caen qui reprennent donc 5 points d'avance à 4 journées de la fin sur Angers. Le maintien sportif, en tout cas, semble plus que compromis, puisque, alors d'ailleurs, ce n'est plus Caen qui est en lutte avec le SCO pour se maintenir, c'est Massy qui est à 3 points devant les Angers, mais pour dire, hein, Massy qui avait pris 3 points, ouais, de pénalité. Pour des mauvaises gestions de budget et qui voilà se retrouve juste devant le SCO et le SCO qui doit donc emporter on va dire au moins 3 de ses 4 derniers matchs hein, pour se maintenir sportivement encore une fois je le rappelle puisque un maintien administratif est sûrement espéré de la part des Angevins même si évidemment ils voudront aller chercher sur le terrain ce maintien. Voilà, et on sait que l'économie de ces clubs-là est assez complexe et que voilà le SCO qui apparemment serait quand même le deuxième budget du championnat, mais qui est actuellement la dernière équipe sportivement en tout cas de cette division. Voilà, on suivra ça. Match à venir contre Nancy. Les prochains adversaires sont assez compliqués hein, puisque les Angevins ont joué quand même pas mal d'équipes du bas de tableau d'ores et déjà et c'est vrai que c'est assez compliqué. Et puis on le disait hein, c'est une saison qui est quand même très particulière étant donné que le SCO partait assez bien avec ils ont seulement 4 victoires pour 3 nuls hein, c'est le pire bilan du championnat. Donc 5 points de retard sur Caen, 7 sur Valence ou encore Cournon et Sarrebourg. Peut-être aussi Valence qui va recevoir bientôt une pénalité de points vis-à-vis de pareil un budget qui a été mal géré de la part des Valenciens. Donc ce sera à suivre. Donc comme je le disais, le prochain match du SCO ce sera à Nancy. donc le 19 avril à 20h, ce sera voilà vendredi prochain. Ensuite, deux réceptions, celle de Massy, qui sera du coup un match très important, encore une fois la dernière chance peut-être, l'ultime. Cournon ensuite, et pour terminer par Tremblay qui est quand même une équipe du haut de tableau, qui est d'ailleurs leader hein, de ce championnat de Pro League. Ça va être assez compliqué hein, pour les Angevins pour se maintenir sportivement, mais on vous donnera évidemment les infos si jamais un maintien via autre que les résultats sportifs est envisageable. On va passer au basket maintenant, Faustin, avec pas mal d'actu qui secoue un peu tous les clubs du Maine-et-Loire, mais surtout un peu autour, j'ai envie de dire. On va commencer par le AB qui sur le terrain a gagné. Exactement. Et qui a créé la surprise du côté d'Orléans et qui n'est plus dernier de Pro B. Je spoil un peu.
Exactement, c'est pire ce que j'avais écrit.
Mais en tout cas, et puis il y aura une autre info aussi concernant le staff technique.
Exactement, parce que du coup, comme tu le disais, l'EAB n'est plus dernier du championnat de Pro B en gagnant ce week-end face à Orléans, cinquième du championnat sur le score de 98 à 94. Ils ne sont maintenant plus qu'à une seule victoire d'écart de la 16e place, significative de maintien. Il reste 4 matchs à jouer d'ici la fin de saison, dont un dernier contre Fos-sur-Mer qui peut être décisif.
Il vaut de l'or.
Qui vaut de l'or, exactement, Fos-sur-Mer. Non, il n'y a pas de jeu de mots.
Non, mais j'ai cherché, c'est juste un match qui vaut de l'or.
Ouais, parce que Fos-sur-Mer est du coup l'actuel dernier de Pro B. Et un match qui peut donc être décisif pour le maintien. Et l'autre info dont tu parlais, c'est au niveau du staff technique avec Frédéric Cosset qui rejoint le staff de John Delay, nouveau coach après la démission. J'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est le terme exact.
Oui, en tout cas la rupture de contrat entre Ali Bouziane et...
Exactement, et donc et Frédéric Cosset, coach de l'équipe féminine d'Avrier, qu'on a eu l'occasion de recevoir
d'année. Un ancien invité surtout.
Ouais. Exactement, qui prend donc ses fonctions pour les 4 derniers matchs de l'EAB en tant que coach adjoint. On espère qu'il va réussir à aider l'équipe à se maintenir en Pro B.
On l'espère, et puis voilà, c'est vrai que ça... Je dirais pas que ça part bien, mais le chemin est là.
On va le lancer là sur les derniers matchs qu'ils ont joués. Le AB s'en sort mieux que le reste de la saison.
Il y a sûrement sur les deux derniers mois, il y a sûrement la moitié des victoires de la saison.
C'est
en fait,
exactement hein. Ça.
C'est sûrement donc voilà, c'est encourageant pour le AB qui peut être la bonne surprise.
Ouais, qui peut espérer
la bonne nouvelle en tout cas.
Honnêtement, même moi, vers le milieu de saison, j'y croyais plus. Ouais. Et là, ils ont réussi à sortir la tête de l'eau, un peu à l'inverse du SCO, j'ai envie de dire. Ouais. Même si c'est pas les mêmes proportions non plus.
Moi, je veux dire inversement en SCO en balle, parce que comme tu disais, là, tu parlais de l'hiver dernier. Moi, l'hiver dernier, le SCO en balle, je vous l'avais dit, le SCO en balle, ça va se maintenir, il y a pas beaucoup d'enjeux. Voilà, il y a quasiment pas eu de victoire depuis, donc voilà, ouais, c'est un peu à l'inversement, mais c'est intéressant d'avoir, du coup, comme je disais, cette bonne nouvelle pour la fin de saison.
Exactement.
On enchaîne avec l'UFAB qui s'apprête à défier une équipe vice-championne d'Europe.
Exactement, Villeneuve-d'Ascq, donc, qui a été sacré vice-champion d'Europe de l'Euroleague. Voilà, la C1 finalement. Elles les affronteront donc pour les quarts de finale de play-off, car Villeneuve-d'Ascq a également fini premier du championnat de ligue féminine. Leurs deux confrontations cette année n'ont pas du tout été en faveur des Angevines, avec d'abord une défaite 89 à 67 à domicile, puis 106 à 66 là-bas. Ça va être un réel défi pour les Angevines d'aller chercher ne serait-ce qu'un match, sachant que la saison précédente déjà, elles s'étaient rencontrées et même scénario, les Angevines n'avaient pas réussi à gagner un seul match au terme des deux rencontres.
Et une autre info concernant l'UFAB, c'est tombé aujourd'hui, voilà, concernant une jeune meneuse.
Dans la nuit, Leïla Lacan a été draftée à la 10e position en WNBA par les Connecticut Sun. Voilà, une 10e position vraiment encourageante. Je ne sais pas si Leïla Lacan va faire les deux saisons finalement, parce que souvent c'est ce que les joueuses font, jouent en WNBA l'été et reviennent jouer la ligue féminine le reste de la saison quoi.
Ouais.
Mais je ne sais pas si c'est ce qu'elle a prévu de faire ou si elle va se consacrer maintenant à sa carrière américaine. Mais j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir comment elle va réussir à se développer en WNBA, avec aussi à notifier Caitlin Clark, qui a été la numéro une de ce,
évidemment,
de ce choix qui a.
Tu peux un peu rappeler qui est Caitlin Clark pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas?
Bah, c'est l'une des meilleures joueuses féminines, la meilleure joueuse, je pense, féminine universitaire qui lors de la March Madness, qui s'est finie assez récemment, a juste tout cassé, et est une incroyable shooteuse, à trois points notamment, malgré le fait qu'elle ait perdu en finale de March Madness, donc. Mais ouais, c'est vraiment le plus gros prospect. C'est un peu le Wembanyama du Victor basket féminin.
Elle bat tous les records et elle est plutôt injouable dans son domaine. C'est
exactement.
Ça
c'est pile ça.
On termine avec le Cholet basket.
Ouais, malheureusement, on finit un peu moins bien avec Cholet qui a perdu 82 à 69 face à Rouen. Cette défaite les éloigne un peu plus du top 5 de Betclic Elite et se rapproche dangereusement de la 9e place, ce qui leur empêcherait d'aller en play-off, sachant que le calendrier des Choletais n'est vraiment pas évident pour la fin de saison. En attendant, ils jouent leur prochain match samedi contre Blois.
Et pardon, on essaiera d'écouter un petit peu justement, parce qu'on avait posé la question quand Leïla Lacan était venue dans l'émission.
Ah oui.
Sur la WNBA. Faut que ça me regarde mal.
C'est les Américains ici.
Et donc voilà, on essaiera de voir ce qu'elle nous avait répondu à l'époque. On va donc terminer les actualités locales avec une info importante qui vient tout juste de tomber il y a à peu près une heure. Jonathan Paredes sera le nouveau coach des Ducs d'Angers. C'est officiel donc depuis 19h maintenant. C'était un peu dans les tuyaux. On a commencé à le voir sur quelques médias locaux. Il arrive donc pour 3 ans en provenance des Nottingham Panthers en EIHL. Il avait été notamment élu meilleur entraîneur de Ligue Magnus en 2022 lorsqu'il était sur le banc des Jokers de Sergi Pontoise. Donc voilà, arrivée de Jonathan Paredes, donc qui va donc permettre de démarrer un nouveau cycle à Angers. Un contrat quand même, je trouve, assez long à cette échelle-là, puisqu'on a eu pas mal de turnover récemment sur les différents bancs des Ducs, hein. On a déjà, je crois, 3 entraîneurs en 3 ans, ouais. De mémoire. Et donc là, un contrat de 3 ans, hein, pour, c'est peut-être,
il est peut-être arrivé en disant qu'il avait des choses dans un coin de sa tête, et qu'il prenait peut-être un peu plus de temps à se développer que ouais. Sur une saison. Donc, parce que je me rappelle, c'était pas Cédric, c'était le journaliste que tu avais cité, qui disait que,
Charles Dubré, je crois.
Ouais, voilà, qui disait que les Ducs laissaient pas la place aux jeunes. Et là, c'est peut-être quelque chose qu'il va essayer de développer.
On verra ça. Voilà.
Peut-être plus pour un projet sur le long terme qui manque peut-être aussi aux Ducs pour pouvoir performer dans cette Ligue Magnus.
Et puis quelqu'un qui, du coup, a de l'expérience dans le championnat. On va passer maintenant à la pause musicale. On va tout de suite s'écouter SCH et son titre. En featuring avec Laylo, dernière ligne droite, et on se retrouve juste après.
C'est le SLL sur la route vers la frontière allemande avec une gâte sur le deck. Faut l'optionner comme celle sur la couve de elle. Tellement mon aim obsède, j'peux pas te caler. Téléphone, je suis pas là. Comment te dire que le temps joue contre nous comme le vent dans la dernière ligne droite.
Formula One roule comme si plus rien à foutre. Je vais leur prendre autant de billets pourpres que maman souffre. Le soleil s'endort à 220 sur l'autoroute. Et la course termine au coude à coude trop près du gouffre. Numéro 1 c'est pas qu'un chiffre, c'est aussi un poids. Ceux en qui je crois, ceux sur qui j'ai mis une croix. 20 moins 1 qu'à faire Acer, Super Silver Ace. Étoile montante du banditisme, million d'SOS. Qu'elle croit que c'est ma gauche. Encore une qui dira que je suis un salaud. Encore une. Il est heureux sous le smile d'or. 17 ans j'attendais le magot. Je reviens de loin. Mes refonds sont témoins. Pole position. C'est ma l'unisson. Dernière ligne droite.
Fermez la lettre.
Yeah. Yeah, yeah.
Le futur faut y croire pour le voir.
Lias de beat, un coincé dans le creux de sa fouffe. Dans le club tout en Gucci comme dans Pétin Foot. Y'a des portes qui s'ouvrent, y'a des bouches qui se ferment. Le temps passe plus vite que nous dans le foreign. Faut faire monnaie de spi comme les mecs de Wall Street. Trop tu connais, toi tu vois Ninja Scromé devant la zombie, devant la zombie. Frère, on met la light sur moi. Le futur faut y croire pour le faire. C'est peur, je le fais juste pour le beurre. Appelle-nous pour les vrais sons. Négro spécial, j'fais que pour les vrais sons. J'sers la pression dans les ambiances très sombres. C'est des bitches, faudrait faire un threesome. Ma vie ressemble de plus en plus à mes clips. Sur mon moto y'a le shifter, j'ai enlevé le lift.
Sur mon moto y'a le shifter, j'ai enlevé le lift.
J'fais des sons, y'a pas de hook parce que nique sa mère la rotation. On peut pas plaire à la terre entière, fuck leurs réseaux sociaux. J'suis bien dans ma zone, dans mon 4 anneaux sport, man. J'roule autobahn.
Et j'peux pas plaire à la terre
entière. C'est le SLL. Sur la route, vers la frontière allemande. Avec une gâte sur le deck. Full optionné comme celle sur la couve de elle. Tellement mon aim obsède, j'peux pas te caler. Téléphone, je suis pas là. Comment te dire que le temps joue contre nous comme le vent.
C'était SCH et Lélo sur Radio G. Vous nous écoutez toujours sur le 101.5 de Radio G ou bien sur internet via le site www.radio-g.fr ou bien alors sur les plateformes DAT+. On est ensemble jusqu'à 21h pour revenir maintenant sur l'actualité internationale. On va donc enchaîner donc sans plus tarder avec le football et rapidement on va essayer de donner les résultats de la Ligue 1 pour ceux qui n'auraient pas suivi. Vendredi, Metz a surpris Lens sur sa pelouse en s'imposant 2-1. Strasbourg s'est imposé 3-1 face à Reims. Toulouse a renversé Rennes 2-1. Ensuite, c'est Nantes qui s'imposait 1-0 dans le temps additionnel contre Le Havre. Match nul 1 partout entre Clermont et Montpellier. Et puis le match de fou dimanche soir entre Lyon et Brest. Match de dingue puisque les Lyonnais menaient 1-0. Ont été menés 3-1 et sont revenus pour s'imposer à la 90+16 4-3 avec donc deux cartons rouges aussi distribués dans la rencontre. Hein, une rencontre qui a été marquée par quelques polémiques autour de l'arbitrage. Voilà, c'est vrai que l'arbitre a
1/10.
A eu 1/10 dans l'équipe, voilà, a raté son match. Maintenant bon, c'est vrai que si je peux un peu donner mon avis, tous ceux qui commencent à crier à la corruption, à des choses comme ça, je trouve ça un petit peu
non, c'est abusé, mais
scandaleux. Voire même parce qu'il y a certains qui sont des journalistes qui osent faire des suppositions très très graves dans certains médias. Je ne les nommerai pas, mais je trouve ça quand même assez grave d'en arriver là, parce qu'à la limite des supporters marseillais sur Twitter, on est habitué, mais que ça soit des journalistes, que les arbitres soient mauvais, oui, c'est un fait. Que certains soient avantagés plus que d'autres, je pense pas. Et dans le même temps, justement, l'équipe avait sorti un article pour fact-checker justement les erreurs d'arbitrage. Bénéficie-t-elle à l'Olympique Lyonnais notamment, et en début de saison, non, totalement pas, puisque voilà, il y a eu notamment, je sais pas si vous vous souvenez de la double main de Clermontois qui avait voilà fait une manchette comme au volet. On avait pas mal de
ça avait provoqué ton mécontentement d'ailleurs.
Bah oui, logiquement, mais bon, c'est des erreurs et ça arrive à tout le monde, et voilà, donc bref, mais sinon on a un vrai beau match de football avec beaucoup de buts. Et ce but, cette délivrance pour l'Olympique Lyonnais à la dernière minute sur ce penalty de Maitland-Niles, qui a un flegme incroyable. il arrive avec sa course en marchant et qui met une lucarne très propre. Donc voilà. Et puis l'Olympique Lyonnais qui remonte à la 7e place. Ouais. Il y aura une vraie lutte, hein, les gars, pour justement place, cette 7e place avec Reims, Rennes, Marseille et Lyon qui vont se disputer potentiellement.
Et même Lens.
Oui, peut-être Lens aussi. Cette place pour potentiellement la Conference League si le PSG s'impose contre Lyon en finale de Coupe de France.
Ouais, 7e, l'OL est européen.
Exactement.
Qui l'aurait dit en début de saison.
C'est ça. C'est assez
c'est,
dingue.
C'était vraiment la blague au début de saison. Tu vas voir, ils vont finir européen.
Pour écouter, pour un petit peu défendre quelqu'un qui m'est cher, Monsieur Max Martin. Monsieur Max Martin a eu deux pronostics incroyables réalisés sur l'Olympique Lyonnais cette saison. Mm. Quand Fabio Grosso est arrivé, il a dit il passe pas l'hiver. Donc, moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais Max, quand même. Ouais. On est sur un projet intéressant avec Fabio Grosso, ancien du club. Il vient de monter avec Frosinone, ça va bien se passer. Et il passe pas l'hiver. Bon, déjà, je lui dis, bah, mec, c'est incroyable, comment tu fais tout ça? Et donc, il me dit, ok, j'en ai un pronostic là pour toi maintenant. L'OL sera européen à la fin de l'année.
Ah, qu'est-ce qu'il est bon.
Et là, je fais, non mais arrête de rigoler. Au début, même lui en rigolant, il fait, non mais je parle en Europe, ils seront en Europe parce que c'est une ville européenne. Tu vois, il joue sur les mots. Et puis au final, il va avoir raison. Il va avoir raison. Donc c'est très fort. Bravo à lui. Mais bon, ce serait bien qu'il ait d'autres pronostics positifs sur l'Olympique de Marseille. On va enchaîner.
Oh là là.
On va enchaîner tout de suite avec avec la Ligue des Champions. Sans plus tarder, et ces matchs qui nous intéressent évidemment, ces quarts de finale retour, en parlant évidemment du FC Barcelone qui reçoit le Paris Saint-Germain, match de fou qui va arriver du côté de Montjuïc, hein, puisque ce n'est plus au camp nous. Avant de vous donner les compos, je vais vous rappeler les résultats des matchs de la semaine dernière, puisqu'on s'est pas revu depuis.
Je vais simplement me mettre à l'aise en enlevant mon sweat.
D'accord.
Il a le maillot du Barça, je l'ai déjà vu.
Ah, d'accord. Ok. Enlève pas tout non plus. Enfin, voilà. Je sais qu'on a l'antenne en radio, mais. Ok. Bah, il y a un parti pris. Voilà. Je peux venir avec mon maillot de l'OL parce que voilà, j'ai voulu respecter.
On est mieux comme ça, je trouve.
Non, ouais, non, bah, ok. Bah, pourquoi pas. Un peu d'arrogance. Hein. Moi, je suis neutre dans ce match. Donc, bah, écoute, pourquoi pas. C'est annoncé. Donc, voilà. Maillot d'entraînement du Barça.
C'est le sur-maillot, il me semble.
C'est ça. Maillot du Barça porté par Faustin pour ceux qui nous écoutent. Donc voilà. T'as pas maillot du PSG toi, sans
non,
dire,
il est trop petit. Okay, il en avait un mais maintenant il est trop petit.
Très bien. On va rappeler les résultats donc qui ont lieu la semaine. C'est très drôle. Il y a des happenings maintenant dans Génération Sport. On va rappeler les résultats de la semaine dernière. Hein. Au moment où vous a quitté, on vous parlait donc des matchs très importants. Mm. Un quart d'heure plus tard, il y avait déjà.
Même pas un
cinq
quart d'heure.
Cinq buts sur les. En 20 minutes, il y avait même 4-5 buts sur les deux matchs.
C'était fou.
3 partout entre le Real et City, avec donc voilà.
Des buts.
Beaucoup de buts. Voilà, des buts
surtout
de
magnifiques.
Furieux,
ouais.
Surtout, Foden, Gvardiol et Bernardo Silva pour City, des buts très très beaux.
Et même Valverde qui
met un Valverde qui égalise donc à la 79e d'une très belle frappe. On a aussi eu ce match nul de partout entre Arsenal et le Bayern Munich. Beaucoup quelques polémiques aussi sur les penalties. Voilà,
un peu moins moi je trouve.
Ouais.
Il y en a deux. Il y en a une
pour
le Bayern et pour le Barça.
Par contre oui,
pour Arsenal.
Arsenal oui à la fin là où pour moi il y a penalty.
En gros,
il y a la dernière action.
Donc, ah ouais.
Ouais.
Ah, pour moi le dernier oui voilà.
Oui. La dernière action il y a pénalty.
Après le dernier il y a pas du tout justement.
Ouais, il y a pour rien pénalty parce qu'il le.
Oui, clairement il
jambe en fait.
Oui. Il va au but après.
Bah oui. Donc.
Après il marque même en fait.
Alors il y a l'action aussi qui est un peu lunaire entre le gardien et le défenseur d'Arsenal.
Ah oui.
Parce qu'en gros pour expliquer un peu aux auditeurs, le gardien d'Arsenal tire son 6 mètres enfin et passe la balle à son défenseur. Son défenseur qui croit que le 6 mètres n'est pas joué. Et qui
redonne la balle
reprend la balle à la main et va lui tirer à 6 mètres. Donc finalement il n'y a pas eu penalty là-dessus. Pour parler un peu des matchs du mercredi, la victoire 2-1 de l'Atlético et enfin le match PSG Barça qui a accouché d'une victoire des Barcelonais 3-2, ouverture du score des Catalans par Rafinha en seconde période. Très rapidement le PSG parvient à renverser la rencontre en marquant grâce à Dembélé et Vitinha, et enfin Rafinha qui du coup égalise pour le Barça et Christensen sur corner qui donne l'avantage aux Catalans. Ce soir donc match retour, et oui très important. Entre le
au
Barça
final,
et le PSG.
Oui, j'ai l'impression que tous les matchs n'ont pas encore de vainqueur là.
Ah, clairement, ouais.
C'est très indécis. Ouais. Hein, clairement, il y a soit match nul, soit un but d'écart. Donc
oui, c'est super bien. ça va donner du suspense. Bah,
mais surtout, on a eu déjà, je crois, 18 buts hein, sur les 4 matchs. Ouais, c'est quand même assez, c'est pas mal. Pour parler des compos de la rencontre, nous avons donc côté barcelonais dans les buts du classique Ter Stegen, une défense à 4, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo, c'était celle qui avait débuté au Parc des Princes. Le milieu de terrain, Gundogan, De Jong et Pedri. Pedri qui avait donné une passe D magnifique sur son entrée. Sur son premier ballon. Et puis, l'attaque la même. Yamal, Lewandowski et Rafinha qui sont titulaires. Côté PSG, là, pour le coup, il y avait quelques incertitudes puisqu'il y a eu quelques mauvaises prestations sur un petit peu toutes les lignes de la part du Paris Saint-Germain. Dans les buts, Donnarumma, évidemment, même s'il avait fait donc quelques boulettes au match aller.
C'est un peu tous les buts qui sont pour lui, j'ai l'impression, quand même.
Peut-être un petit peu. Nuno Mendes est à gauche. Lucas Hernandez est dans l'axe avec Marquinhos. Et Hakimi fait son retour dans le couloir droit au milieu de terrain. Retour de Warren Zaïre-Emery en titulaire. Vitinha et Fabian Ruiz sont également là. Vitinha qui a fait une très bonne deuxième mi-temps sur le match aller. Et l'attaque, la petite surprise quand même, c'est Kylian Mbappé qui va occuper l'axe. Il va pas occuper le banc, je vous rassure, il est bien titulaire, même si il a fait un très mauvais match. Il va jouer donc en pointe avec Barcola et Dembélé sur les côtés. Messieurs, ça va être un grand moment. Ils sont excités comme tout. Qu'est-ce qu'on attend de ce match? Un petit peu, j'ai envie de dire, tactiquement, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous avez envie de retenir, dont leur performance va être décisive?
Je pense à Mbappé notamment, qui au match aller a été quasi inexistant. Oui. Et le choix de le mettre dans l'axe est sûrement pas anodin à cela, parce que il sera souvent c'était Koundé à droite, Koundé qui connaît très bien Mbappé de par leur expérience équipe de France, voilà. Et là, le fait de le mettre dans l'axe, peut-être que c'est plus compliqué pour Cubarsí et Araujo, qui sont moins rapides dans un premier temps, de le tenir. Mais il faudra aussi qu'ils arrivent à mieux le trouver. Parce que il n'a pas été beaucoup servi non plus au match aller Mbappé.
Très bien. Clément.
Le retour de Mbappé à Barcelone. La dernière fois qu'Mbappé a été à Barcelone, je pense que t'as pas trop envie qu'on en parle.
Non, ça va.
Triplé, on rappelle.
Ouais. T'es pas content.
Triplé.
Après, vu les défenseurs centraux, Arroyo et Cubarsí, ils ont été vraiment très bons, je trouve. Contre le PSG. D'ailleurs, c'est Cubarsí qui a été homme du match.
Non, c'est
le homme du match. Ah, je croyais que c'était Cubarsí. Autant pour moi. Mais je trouve qu'ils ont fait tous les deux un très bon match. Donc à voir. Après, je pense que aussi Zaïre Emery peut faire beaucoup de bien dans le milieu du PSG parce que ça a été un peu compliqué pour Kang In-Lee la semaine dernière. Enfin, c'était un peu arrangé. Je sais pas comment il s'est débrouillé. D'ailleurs, Enrique, c'était pas vraiment un 4-3-3, j'avais l'impression.
Ouais, 4-4-2, parce que c'est vrai que Kangini est un peu plus offensif. Mais autre changement tactique, il y a eu cette entrée de Barcola qui a changé aussi pas mal de choses avec Asensio qui était en faux neuf, qui avait été mauvais.
Il
y avait l'idée, je trouve, quand même, dans cette idée d'avoir Asensio en faux neuf. C'est quelque chose d'ailleurs que Luis Enrique faisait quand il était sélectionneur de l'Espagne, qui marchait parfois, qui a d'ailleurs marché en début de saison. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu sur les dernières semaines, qui a été tenté, qui a pas marché, et derrière Barcola qui est rentré, qui aide pas mal. Avant que tu continues, Matteo nous écoute notre nouveau chroniqueur nous écoute depuis chez lui. Il nous a écrit un petit peu sur le chat. S'il veut parler un petit peu du match justement sur le chat de Radio G. D'ailleurs, si même vous, chers auditeurs, vous voulez vous rendre sur le www.radio-g.fr et participer à l'émission en parlant, c'est tout à fait possible. Donc, et puis voilà, on vous invite, notamment Matteo, à nous donner vos pronostics du match. Tu disais donc, Clément.
Je disais juste que il y a aussi le retour d'Hakimi et qui peut être un facteur parce que Hakimi offensivement, il est quand même, il a un impact quand même assez important. Et je trouve que aussi, bah, le fait que Beraldo soit sur le banc, ça me soulage un peu parce que avec le match qu'il a fait mercredi dernier, c'était vraiment pas incroyable. Et je veux encore voir du Nuno Mendes qui tient Lamine Yamal en laisse comme il l'a fait la semaine dernière.
Ouais, c'est vrai que c'était un sacré duel.
Ouais.
Bon, on va parler sérieux maintenant. Vos pronostics.
Vas-y, je te
sur là commencer. Pour le coup donc sur le match tout simplement parce que là la semaine dernière on parlait de qualification, là on va parler du match.
Moi je vais
Faustin.
Dire je vais me lancer, je vais dire un partout
okay. Et donc qualification
exactement
du FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions.
Faudrait une petite musique là.
Désolé, j'ai pas de suspense en boîte. Mais
oui, moi, je dirais un petit 2-0 du PSG arraché un peu, on ne sait comment. Un but en première mi-temps et un deuxième pour sceller. Et après, tous derrière, en espérant qu'il se repasse pas la même chose que lors de la remontada.
Tu rappelles donc combien
2-0.
2-0 pour le PSG.
Ouais. Et je dirais bien un petit doublé de Mbappé.
Double Mbappé. Aïe, aïe, aïe.
Je pense qu'il aime pas, être comme
sous
ça.
Des projecteurs voilà, de façon négative.
Ouais, c'est ça.
Il préfère les positifs.
Et je pense que ça le met en rogne un petit peu. Donc, je pense que Mbappé va être énervé.
On va voir. Est-ce que, du coup, s'il fait une mauvaise performance.
Ah là là.
Et que le PSG est éliminé et que c'est son dernier match en Ligue des Champions avec le PSG. Est-ce que ça viendrait un peu gâcher son histoire avec le PSG?
Non, mais peut-être juste son départ. Peut-être que du coup Enrique va le mettre plus sur le banc, il va moins jouer en Ligue 1, il va avoir moins d'importance.
Peut-être aussi avoir la réaction des supporters quand il va partir.
Ouais, mais ça ils le savent déjà les supporters. Ouais, je pense.
Parce que sauf s'il ramène vraiment la Ligue des Champions, il n'aura pas un magnifique pot de départ non plus.
Ah, si ça peut.
Bah, ce sera. Enfin, je sais pas, il est quand même mitigé son départ. Il part pas de ouf en
les Parisiens sont...
À part si justement il remporte la Ligue.
Je trouve que les Parisiens donc sont assez quand même dans l'ensemble plutôt
oui, satisfaits de ce qu'il a fait.
Non, mais justement un peu partagé.
Ouais. Ah ouais.
Parce que à la fois il y a eu quand même beaucoup de polémiques et qui ont un peu pollué le club.
C'est vrai.
Et à la fois sur le terrain, la plupart du temps, il a répondu présent. C'est le meilleur buteur, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Maintenant, moi je trouve que clairement sur ce match, il joue son image vis-à-vis des supporters. Moi, si j'étais supporter parisien, il fait un match pas bon, il passe du côté plutôt mauvais dans le bilan sur les 7 ans, et même surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout sur les 2 ans. Au vu de son contrat, on parle
de ce qu'il a,
de son salaire qui est sur les 2 ans à plus de 140 millions d'euros. Si donc sur les 2 ans de ce contrat incroyable et surtout de tout pouvoir qu'il a eu dans le club sur donc ces 2 ans-là, tu n'arrives même pas à faire à être décisif dans des moments clés du PSG et que tu sors en 8e puis en quart. Là, il faudra se poser des questions sur son investissement qui, pour moi, se joue dès ce soir en fait. Mais voilà. Moi, un pronostic, je vois pas du tout ce match. C'est fou. J'ai aucune sensation sur ce match. J'ai envie de voir le PSG. Enfin, c'est pas que j'ai envie. J'ai aucune affection particulière pour le Paris Saint-Germain. Mais, je le sens.
C'est un club français, quand même.
Oui, bien sûr. Mais je le sens le Paris Saint-Germain capable de faire quelque chose.
Ouais.
Je les vois pas rien faire, en fait. Pour moi, ça peut vraiment basculer des deux côtés.
Oui, au moins avoir un sursaut où ils vont marquer un but. Je pense qu'ils vont quand même marquer un but pendant.
Bah, je pense que ce sera quand même eux à l'attaque plus que Barça.
Bah, logiquement, quoi.
Voilà, ça paraît évident, mais. Mais on sait jamais. À tout moment, j'allais dire des mots grossiers, mais.
Oula.
À tout moment,
choke. Non?
Non, à tout moment, ils n'osent pas. Voilà, ils n'osent pas jouer et ils ont peur et.
Non, je pense pas.
Ah ouais. Je pense pas non plus, mais
on verra
bien. Terrible pour eux, mais terriblement bien pour moi.
Moi, donc, pour en terminer sur un pronostic, j'irai sur le PSG quand même. 3-1 avec des buts.
Ah, donc un bon match.
Ouais. Moi, je pense qu'il y aura des buts quand même.
Ce sera un bon match. Faut qu'il en soit, je pense.
Il y a des très bonnes défenses, mais ça peut être un très très beau match. Qui commence d'ailleurs dans 14 minutes.
Et oui, on va rater le début.
On va probablement rater le début. pour ceux qui peuvent le voir.
Ouais.
Puis on va donner les compos de Borussia aussi Dortmund, qui reçoit donc l'Atlético de Madrid. Très rapidement, Kobel dans les buts, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Madsen. Au milieu de terrain, Sabitzer, Chan et Brandt. Une attaque composée de Sancho, Adeyemi et Füllkrug. Et puis du côté de l'Atlético, le français Antoine Griezmann est titulaire en attaque avec Alvaro Morata. Au milieu de terrain, Koke, De Paul, Llorente. Une défense à 5. Et oui, ça va bétonner du côté de Cholo Simeone. Azpilicueta, Hermoso, Jiménez, Witzel, Molina et Oblak dans les buts. Voilà un peu pour les compos concernant ces deux quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Sur l'autre match, vous avez des avis ou
Moi, je veux
D'ailleurs, sur l'ensemble des quarts de finale, est-ce que le match allait un peu bousculer vos perceptions?
Non,
ça n'a rien changé.
Pour moi, Atlético était favori. Atlético, ils vont passer, je pense, parce qu'ils ont clairement les capacités. Et puis même pour Griezmann, moi, ça me ferait plaisir, rien que pour Griezmann. Et après, Arsenal-Bayern, je vois toujours Arsenal passer. Même si ça va être compliqué d'aller gagner au Bayern, je pense qu'ils sont capables. Et Manchester City face au Real, c'est City à domicile, c'est très, 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 très fort. Donc et en plus, ils ont gagné 5-1, mais d'une manière encore ce week-end. Je les vois très confiants. Ouais, je vois City passer, franchement.
Justin, toi ?
Ouais, moi, je rejoins plutôt Clément. Surtout que j'avais quand même été un peu déçu de la prestation du Real, qui, à part le but de Valverde, met deux buts
en contre.
Voilà, c'est ça, deux buts pas spécialement beaux. Le premier, la frappe de Camavinga contrée qui rentre. Le deuxième, Rodrigo, je crois, c'est qui met une frappe qui rentre à deux à l'heure dans les cages. Après le troisième but, il y a rien à dire. Mais j'avais été un peu déçu de leur prestation et je pense que c'est plutôt City qui va l'emporter. Et sinon, bah, je suis d'accord avec Clément pour l'Atlético et Arsenal. Et ça me fait bien rire d'ailleurs que Harry Kane arrive au Bayern.
Ah oui, oui, on l'a
avec
parlé.
Avec le Bayern Leverkusen.
Le Bayern Leverkusen qui a. On fera sûrement un point, je sais pas, sur les cinq grands championnats. mais oui, le Bayern Leverkusen qui est déjà sacré champion d'Allemagne. Et comme tu le disais, Harry Kane qui ne gagnera toujours pas de trophée cette année. Évidemment, il y a la Ligue des Champions ou l'Euro. On va enchaîner avec les autres sports maintenant. Le tennis, et oui, aujourd'hui, c'est un micro-événement sur la planète tennis. C'était le retour sur les cours de terre battue, qui plus est, de seigneur, j'ai envie de dire, Rafael Nadal, qui jouait du côté de Barcelone avec donc ce match face à l'Italien Flavio Cobolli. Rafael Nadal qui est retombé donc à la 644e place au classement ATP, et puis surtout il n'avait pas joué sur terre battue depuis 631 jours, donc c'était quand même assez important.
C'est passé vite en vrai.
Ouais, assez vite. Et puis voilà, pour rappeler, donc c'est une victoire 6-2 6-3 dans ce premier tour du tournoi ATP 500 de Barcelone. Les gars, très rapidement, est-ce qu'on attend un bon retour pour Rafael Nadal contre Barcelone?
Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Je pense qu'il n'est pas non plus au max de sa forme, malheureusement.
Je voulais dire Roland Garros.
Oui, t'as dit contre Barcelone, je me suis dit
que. Pardon, parce que moi je suis fatigué.
Après, il est à Barcelone, là.
Mais le pollen qui me tabasse, je me bouche depuis tout à l'heure. Pardon, je suis fatigué. Oui.
J'avais compris, t'en fais pas, mais ouais, du coup, je pense qu'il sera pas non plus à son prime. Il peut aller chercher des bonnes places. Sortir des premières phases, j'ai oublié le nom, mais voilà, il
des
va pas,
de série.
Voilà, c'est ça, il va pas faire le Roland Garros de sa vie, mais ce sera pas non plus le pire Roland Garros de sa vie.
Ce sera le dernier surtout.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça. Ce sera son dernier. Et, il a comme projet de faire les JO ou pas du coup?
Peut-être, enfin, c'est pas sûr, parce que je crois qu'il faut être dans les deux premiers de son pays au classement ATP.
Ah oui, donc là, ça va être très compliqué.
Ouais, je pense qu'il y a au moins deux Espagnols.
Ouais. J'espère qu'il y aura un bel hommage au moins qui lui sera.
Oui, c'est sûr.
Probablement, oui. Oui, donc, t'espères une belle performance de Nadal. Mm. J'imagine pour Max aussi, si on rappelle, grand fan de Rafael Nadal, qui chaque année pronostiquait Rafael Nadal.
Et contre Faustin, du coup, j'imagine. Qui? Enfin, t'es pour Djokovic, toi.
Oui, mais je suis moins branché tennis. Donc,
ok. Ouais. C'est pas son plus gros combat. C'est pas un gros combat. Voilà, on suivra ça. Sûrement, on fera d'ailleurs une petite preview autour de Roland Garros dans les semaines à venir, puisque ça arrive assez vite. On va maintenant parler un petit peu de handball, puisque les équipes de France féminines et masculines connaissent désormais leur groupe pour les Jeux Olympiques. On rappelle, ça se disputera notamment la phase aller sur Paris et puis la phase de groupe sur Paris et puis la phase finale sur Lille, en inversement avec le basket. Pour les féminines, donc récemment, on rappelle, championne du monde, un groupe assez tranquille avec dans ce groupe B, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Brésil et l'Angola. Et dans l'autre côté, on aura la Norvège, l'Allemagne, la Slovénie, la Suède, le Danemark et la Corée du Sud. Pour les Français masculins, ça va être un peu plus compliqué, un peu relevé quand même, avec néanmoins quand même 4 équipes européennes seulement, en comptant justement la France. Le Danemark quand même, que l'on a battu donc à l'Euro. Les Norvégiens qui ne sont pas forcément en forme sur ces derniers tournois, mais qui sont toujours dangereux. La Hongrie qui a fait un très bon Euro. Et puis également donc l'Égypte et l'Argentine qui représenteront l'Amérique et l'Afrique. Dans le groupe A, on aura l'Espagne, la Croatie, l'Allemagne, la Slovénie, la Suède et le Japon qui représentera l'Asie. Voilà pour. On rappelle également donc que c'est 2 groupes de 6 et qu'à chaque fois les 4 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Voilà pour le handball. Faustin Clément, ça va être à toi maintenant de nous présenter un petit peu les résultats de la Champions Cup qui ont lieu ce week-end.
Oui, il y a des choses à dire puisque il y avait 3 clubs français qui étaient en quart de finale sur 4 matchs, 3 clubs français, on était quand même bien représentés et ça a commencé par un match totalement fou entre Bordeaux Bègles et les Harlequins. Le match s'est fini sur un 42-41 pour les Harlequins. Malheureusement, ça a été un match avec plein de rebondissements où Bordeaux a d'abord été devant, ensuite les Harlequins et puis ça a fait ça jusqu'à la fin du match et donc malheureusement Bordeaux qui s'incline et qui s'arrête ici en Champions Cup. Ensuite on avait le match qui était un peu une revanche des deux précédentes finales entre le Leinster et La Rochelle et La Rochelle s'est malheureusement pris une rouste 40-13 sur la pelouse du Leinster, donc c'est une terrible désillusion pour les Rochelais qui espéraient engranger leur 3e titre d'affilée cette saison. Et ensuite, on a eu le dernier match qui opposait Toulouse à Exeter. Et Toulouse a mis il y a eu un festival à Toulouse avec 8 essais pour Toulouse qui l'emporte 64-26 face à Exeter. Ils joueront le 5 mai à 16h face aux Harlequins qui ont battu Bordeaux Bègles, un adversaire inférieur à Toulouse, donc normalement ils devront aller en finale, mais bon, le rugby on sait jamais, peut y avoir des exploits, donc voilà. Et aussi il y avait l'équivalent de l'Europa League, la Challenge Cup, où Clermont est toujours en lice en quart de finale aussi, et ils se sont imposés 53-14 et sont donc qualifiés pour les demi-finales.
Voilà pour les résultats des clubs français en Coupe d'Europe. Voilà, Mathéo qui n'a toujours pas réagi hein, sur le chat, peut-être qu'il a peur de nous donner ses pronostics, évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'imagine que vous êtes tous impatients, chers auditeurs, de retrouver ce match, ou pas d'ailleurs, vous pouvez évidemment avoir d'autres activités, surtout, il y a peut-être également... l'émission d'après qui vous intéresse, si vous êtes sur Radio G avec Imaginaire qui nous succède. Alors Faustin, avant de rendre l'antenne, t'as une breaking news apparemment.
Un peu breaking qui est tombé aujourd'hui, c'est l'effectif de Team USA pour les JO, l'équipe de basket, donc la super team qui était annoncée et bien au rendez-vous avec Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum, Joel Embiid qui jouera donc pour les États-Unis et pas pour la France, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, un peu de défense quand même dans cette équipe avec Jrue Holiday, Bam Adebayo et Anthony Davis, sachant qu'il reste encore un poste à promouvoir qui n'a pas encore été choisi.
Je m'y connais pas en basket, mais là les noms je les ai quasiment tous reconnus, donc voilà. C'est peut-être inquiétant.
C'est très inquiétant, mais bon, tout ça pour se dire qu'ils vont se faire fouetter par Wemby.
C'est annoncé. Oh là là.
D'ailleurs, c'est dommage. Tu nous parleras peut-être de la NBA la semaine prochaine.
C'est vrai, oui. J'ai oublié. T'avais des choses à dire. Rapidement, peut-être.
Rapidement,
attends, ouais. Au pire, ouais, vas-y.
Si, je peux le faire vite fait, mais parce que c'était la fin de la saison.
Pardon. Et du coup, ouais,
d'accord, là. J'avais fait un mini résumé la semaine dernière.
On fera peut-être un bilan, donc, la semaine prochaine.
Ouais, la semaine prochaine, je ferai un truc un peu plus construit que ce que je vais présenter là, mais du coup, fin de saison NBA, fin de saison aussi pour Victor Wembanyama, qui nous a sorti une très bonne saison, qui va sans doute aller chercher son titre de rookie de l'année. Et ce soir démarrent les premiers matchs du play-in. Je vous en parlerai aussi la semaine prochaine un peu de tous les enjeux qu'il y a dans ces play-offs, ainsi que mes pronostics. Et dernière information, c'était la finale de la G League. C'est en gros la Ligue 2. Et c'est l'équipe, la sous-équipe du Thunder, avec Ousmane Dieng, le français, qui a fini MVP des finales.
Merci à toi, Faustin. Et puis, comme tu disais, tu feras un point plus gros sur la NBA, donc la semaine prochaine. Mathéo qui vient de réagir et qui vient de nous pronostiquer un match nul, un partout avec premier but du Barça face à un PSG dominant qui ne concrétise pas.
Non.
Voilà, pour le pronostic de Mathéo. Vous le saurez bientôt dans quelques heures. Maintenant, vous aurez le vrai résultat de cette rencontre. Et puis on va donc se quitter avec le générique et on va laisser surtout le studio à l'équipe d'Imaginaire qui va nous succéder juste après, en vous souhaitant une très bonne soirée sur Radio G.